Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Jeudredi, votre rendez-vous hebdomadaire sur Agone Radio. Au sommaire de ce 27 mars, une horde d'irréductibles Gaulois s'apprête à envahir Agone, à commencer par son château, avec une exposition originale autour d'Astérix qui ouvrira ses portes le 5 avril prochain. À l'instar des autres lieux culturels agonois, Philippe Duvanel est avec nous pour lever le voile sur cet événement. Et puis ce vernissage commun se poursuivra avec une partie festive près de l'espace contre-contre, mais surtout au Glarier avec un sanglier à la broche, Kiléopatrix, qui fut un temps chef du village de carnaval, nous dira tout sur cet Afterix. Et puis Yasmina Cordonnier nous fera découvrir deux ouvrages dans un nouveau numéro de Miroir de Page. Et enfin, c'est le printemps, la nature se réveille, tout comme le potager agonois. Virginie Dubuic-Schwendt, présidente de l'association éponyme, nous dira où c'est, qui peut y venir et qu'est-ce qui y pousse. Nous sommes le jeudi 27 mars 2025. Nous sommes ravis, c'est certain, de vous retrouver pour une heure sur Agone Radio. Les gogos, les gogos, les gogos, qui ça? Les Gaulois, bien sûr, les Gaulois qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Le château de Saint-Maurice inaugurera sa prochaine exposition le 5 avril et proposera aux visiteurs et visiteuses de se plonger jusqu'à novembre dans la potion magique avec les moustachus les plus célèbres de la bande dessinée, Astérix et son compagnon Obélix, qui est gros, personne n'est gros, mis à part peut-être la carrière artistique de nos héros, 65 ans d'aventure marqués par 40 albums traduits en 117 langues et dialectes et 16 adaptations cinématographiques et une toute nouvelle série animée réalisée par Alain Chabat. 23 ans déjà après l'adaptation cinématographique, sera prochainement diffusée sur Netflix. Cette journée d'ouverture donnera lieu à un événement porté par la tribu de celui qui fut le temps d'un ou deux carnavals détenteur des clés de la ville, le très bien nommé, il est grand, Kiléopatrix. On va en parler maintenant de cette exposition. Nos deux invités donc, Philippe Duvanel, directeur du château, salut.
Salut.
Et je l'ai nommé Patrick Barman, alias Kiléopatrix, chef subsistance et animation de la journée du 5 avril. Hello.
Salut Fabien.
Philippe, après les Schtroumpfs, après Titeuf, nouveau coup de maître, comment est-ce que vous faites pour avoir toutes ces stars du monde de la bande dessinée?
Mais Saint-Maurice est hyper sexy.
C'est ça.
C'est ça.
Okay. C'est résumé.
C'était tellement bien dit que si on pouvait faire un petit podcast juste de ce moment-là, ce serait sympa.
Un jingle.
Non, mais je pense que les personnages de bande dessinée aiment le valet. Et puis c'est vrai que c'est un privilège de pouvoir recevoir une telle exposition. C'est vrai que j'y croyais pas, pour être sincère avec vous.
Qu'est-ce qui a mené jusqu'à cette exposition comment est-ce que tu as choisi finalement Astérix? Comment ça s'est fait?
Moi, c'était un rêve de longtemps. Je voulais vraiment exposer Astérix parce que c'est c'est des aventures qui ont animé mon enfance. Et puis au fur et à mesure que je vieillissais, je découvrais des choses que je n'avais pas découvertes à la base. Notamment les calembours, je ne comprenais pas. Les noms des personnages, je ne les comprenais pas non plus. Et je trouve que c'est une invention folle, Astérix, qui continue aujourd'hui d'exister, mais d'une finesse formidable. Et c'est un art de la satire assez extraordinaire.
Patrick Barman, tu peux témoigner, hein, les calembours et les jeux de mots, ton nom de prince de carnaval.
Ouais.
Kiléopatrix.
C'est par la taille que ça s'est fait.
Voilà, donc c'est un monde qui rayonne bien au-delà des simples lecteurs. Astérix a 65 ans, c'est cette année.
Oui, 65 ans de sa création. Il a été créé en 1959. Il a débuté dans un journal qui s'appelait Pilote. En fait, finalement, en pré-publication. Puis, deux ans plus tard, il était édité en album. C'était Astérix le Gaulois. Et le dernier album en date, c'est L'Iris Blanc. Et puis le prochain, il est déjà annoncé. Ce sera au mois d'octobre, en fait. Ce sera Astérix en Lusitanie.
Bon, pour l'instant, on sera en Valais.
Oui.
Celui d'après, c'est Astérix en Agone.
Ils en font quelque chose. Je pense, 65 ans, c'est on imagine bien que les auteurs originels ne sont plus là. C'est compliqué pour obtenir, pour avoir les droits, pour pouvoir obtenir des choses avec les ayants droit, les héritiers de cette marque.
Alors, l'obtention était assez facile, j'étais assez surpris et j'étais content. Je pensais que c'était inaccessible pour le château et ça l'a été, avec bonheur. Après, dans la conduite du projet, effectivement, ils sont très attentifs à ce qu'on fait. Ils sont des gardiens du temple, ils sont aussi les représentants des ayants droit parce que les filles de René Goscinny et Albert Uderzo sont dans l'affaire, je dirais en quelque sorte. Et puis, elles veillent finalement au respect du travail et de l'œuvre de leur père.
Avec, on a pu le lire, il faut le dire surtout, c'est la première fois en Suisse qu'une expo sur Astérix est montée.
Et ça se passe en Agone, absolument. Non, c'est pas rien. Et c'est étonnant, j'ai la peine à comprendre que ce ne soit pas fait avant. Et c'est tant mieux que ça se fasse aujourd'hui, en 2025, en cette belle cité d'Agone qui est très sexy.
Ouais, alors on va continuer de le dire, c'est le mantra.
Alors, sexy.
Qu'est-ce qu'on va voir, à part que c'est sexy? Qu'est-ce qu'on pourra découvrir sans trop en dévoiler, puisque c'est le 5 qu'on pourra voir ça de nos propres yeux?
Non, mais c'est se faire plaisir avant tout, c'est de replonger dans tous ces albums qu'on a animés de notre enfance, tous ceux qu'on aime ou qu'on a moins aimés. Assez chez Helvète, c'est un des tubes, mais il y a aussi La Zizanie, il y a aussi Sexe en Corse, il y a aussi le Domaine des Dieux, je ne sais pas si vous rappelez le Domaine des Dieux.
Avec les formulaires.
Exactement, oui, notamment. Oui. Et voilà, donc c'est vraiment une immersion dans l'œuvre, dans le génie, j'irais, j'ose vraiment le dire, le génie d'Albert Uderzo et René Goscinny.
Tu l'as évoqué, les Helvètes, ça sera quand même peut-être le thème le plus mis en avant, Astérix chez les Helvètes.
C'est un souhait de l'éditeur, et puis c'était aussi mon souhait, c'est tout un coup de le mettre en avant parce qu'il est extrêmement drôle. Il n'a pas pris une ride, en fait, étonnamment. La propreté est toujours un des clichés de la Suisse, les montagnes aussi, le lac aussi, le secret bancaire, c'est un petit peu différent. Mais il y a d'autres choses comme le sexe militaire ou le culte de l'art choral ou de la musique avec les cors des Alpes qui est mis en avant dans cet album, en fait. Et puis cette fameuse scène du coffre avec Zurix, le banquier, qui d'un coup demande à Bélix et à Astérix de remplir des formulaires et de rien dire de ce qui va se passer dans ce coffre, parce que ça, il ne veut pas le savoir.
Moi, j'ai qu'un souvenir, alors il faudrait que je le relise, hein, du coup, j'ai un souvenir de fondu en lisant cet Astérix avec des gages assez durs quand même.
Oui, absolument, ça commence par le fouet et ça termine par les pieds liés avec, non pas du béton, mais des poids dans le lac, l'aimant en l'occurrence. Ouais.
On va bien s'amuser au château cette année.
Et précédemment, il y avait aussi les orgies, hein, si on se rappelle bien, en fait, l'album, il commence avec une ouverture assez magistrale et les orgies à la fondue.
Orgie de fondue, ouais, ça peut faire des dégâts. Ouais, vas-y.
Je disais, l'exposition en tant que telle, on sait qu'il y a toujours plusieurs volets au château de Saint-Maurice et souvent des activités. Est-ce qu'on peut déjà un peu en parler? Qu'est-ce qu'on pourra jouer dans ces salles?
On pourra escalader. Il y a une salle qui proposera simplement au public de rentrer dans la case et donc qui pourra incarner le rôle d'un Suisse, pas de petit Suisse, mais d'un Suisse qui tracte notre ami Obélix qui a trop bu, qui a bu carrément un chaudron de fondu et puis de vin, et donc qui est ivre. Et donc, visiteurs et visiteuses pourront s'incarner dans ce rôle du Suisse qui tracte Obélix dans la montée qui va aller jusqu'à l'étoile d'argent, puisque finalement, l'objet du livre, c'est d'aller chercher l'étoile d'argent pour soigner le fameux Kester qui a été empoisonné par un affreux méchant.
Et puis, tu le disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, les premiers lecteurs d'Astérix, ce sont les Allemands.
Oui, c'est les Goths, absolument. Voilà. Astérix, c'est 400 millions d'albums vendus aujourd'hui. Et sur ces 400 millions, il y en a 120 qui ont été édités en allemand. Les Allemands sont fans fous furieux d'Astérix. C'est la France, c'est la liberté, c'est le côté, révolutionnaire qui leur plaît peut-être. Et donc, c'est vraiment les premiers lecteurs d'Astérix. Et puis, il y a un vrai culte Astérix en Allemagne. Et puis, il faut savoir que nos amis suisse-alémaniques l'ont aussi traduit en suisse-allemand, Bernd Tütsch. Donc, finalement, c'est vous dire combien le succès de cette bande dessinée est international.
Donc, on aura quelques petits textes aussi en allemand, si j'ai bien compris.
Des petits textes, non. On va rester gaulois dans le temps. Mais on pourra lire des albums d'Astérix, tous les albums d'Astérix en allemand. On pourra même lire en persan, en suisse-allemand, comme je l'ai dit, en hindi ou en d'autres langues, notamment en flamand, etc.
Avis à tous les persans, les hindis et avis aux suisses-allemands qui voudraient venir voir cette exposition.
Ça me travaille quand même parce qu'on parlait de ces noms avec des jeux de mots, avec ce genre de choses. J'imagine qu'il y a quand même un sacré travail pour les traducteurs de transposer cet humour et cet trait de c'est très particulier.
C'est casse-tête, ouais. Alors, on en parle, on présente une série d'exemples là autour, en fait, dans l'exposition, avec 6 exemples. Et effectivement, les traducteurs doivent traduire d'abord les noms, qui ne sont jamais les mêmes. En fait, Idéfix ne s'appelle pas Idéfix dans d'autres langues, Panoramix non plus. Astérix et Obélix, par contre, on ne peut pas y toucher. Et puis, effectivement, à l'époque, Goscinny, qui est donc le scénariste d'Astérix, surveille surveillait toutes les traductions et demandait qu'on retraduise ce qui avait été traduit en français pour voir si son esprit avait été gardé. Parce qu'effectivement, l'une des essences d'Astérix, c'est évident l'image, mais aussi le texte, en fait, et son association. Et donc, ce n'est pas évident de tout traduire les gags de Goscinny.
J'imagine un sacré travail. Comment on fait quand on monte une exposition? Alors, on a les droits, c'est bon, hein, ça y est, on a les droits.
C'est fait.
On a un château qui est vide. Comment ça se passe, le processus pour mettre en place une expo?
Bah, c'est toujours assez complexe quand on expose la bande dessinée, parce que la bande dessinée, elle existe en tant que telle. Et pourquoi l'adresser au mur alors qu'elle est tellement délicieuse au bord d'un Rhône ou d'un feu de cheminée à lire, en fait? Mais alors il faut se creuser les méninges, être créatif et puis trouver des pistes pour la rendre intéressante et dynamique en exposition. Donc là, effectivement, on a présenté toute une partie sur les langues. Effectivement, il y a toute une collection d'astérix que j'ai accumulé autour de différentes langues. Comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, 117 langues de traduction. Et puis, il y a des objets, des figurines, la 3D. Et puis après, il y a d'autres choses, effectivement. Des petites expériences. Il y a le cinéma aussi, et qui pour beaucoup, aujourd'hui, la première prise en main d'Astérix, c'est le cinéma. Le livre a un petit peu disparu pour certaines générations, malheureusement. Mais je les encourage à vraiment se replonger dans l'Astérix, parce que le cinéma fait beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, Alain Chabat, quand il a fait Mission Cléopâtre, il y a cette fameuse scène, si vous vous rappelez, de Mission Cléopâtre, où tout d'un coup, numéro 10, le petit architecte, en fait, Alexandre, qui est un alexandrin, finalement, il est couvert d'or, c'était la promesse de Cléopâtre. Et donc, en fait, ils amènent des amphores avec de l'or, ils n'arrivent pas à le couvrir. Ils disent « on revient » parce que ça existe, mais il n'y a pas assez. Et Alain Chabat s'est pris à multiples reprises pour faire cette scène, il n'est jamais arrivé. Parce que cet esprit-là, ce gag-là, qui est extraordinairement dessiné, c'est très difficile de le restituer au cinéma. Donc voilà, il y a aussi un petit chapitre sur le cinéma.
A contrario, comment tu expliques que, parce que les adaptations cinématographiques de certains livres, ce n'est pas toujours une réussite en fait. Et là, on a presque l'impression que ça a redonné une certaine popularité justement avec Chabat et tout ça.
Mais c'est le phénomène Chabat, je pense que c'est la culture des nuls, c'est ça, c'est Burger Quiz, c'est l'esprit Chabat. Je pense que Chabat, il était porte-drapeau de l'adaptation d'Astérix au cinéma. Il y a d'autres films qui sont moins intéressants, je pense que c'est extrêmement difficile de restituer l'esprit d'Astérix au cinéma. Parce qu'on quitte le dessin, donc à un moment donné, on a des perruques, on a des gros ventres, on a des choses qui sont évidemment un tout petit peu artificielles. Mais Chabat, il a su vraiment faire oublier tout ça, en fait. Voilà.
Prochain album qui sort bientôt, tu viens de le dire, un autre qui est sorti il y a quelques mois.
En 2023, c'était
Le Lys Blanc.
Le Lys Blanc, tout à fait.
C'est des réussites pour toi? On a réussi, les auteurs d'aujourd'hui ont réussi à garder l'esprit d'Astérix? Ou c'est pas tout à fait.
Ils
la
en
même
ont
chose.
Gardé la recette. Après, je pense qu'on peut vraiment pas être Goscinny comme ça, ni Uderzo. Le dessin d'Uderzo, il est prodigieux. C'est un dessin avec beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie. C'est un garçon qui avait énormément de talent. Et puis ce duo entre René Goscinny, qui a été scénariste de beaucoup d'autres choses, notamment Is No Good ou Le Petit Nicolas, et Uderzo, cette union, elle est géniale. Donc effectivement, ce tandem, il est très difficile à reformer. Je dirais que la recette, elle est là. Après, l'esprit absolu de ces deux génies, il est moins facile à restituer. Faut pas le nier.
On va donc se concentrer et reprendre les vieux, les premiers albums. Il y a eu des expos alors précédentes. On a terminé avec Zeb, 21 000 visiteurs. Il y a eu Petit avec 22 750. Les Schtroumpfs, 38 000, 400 visiteurs. Là, il y a un objectif d'exploser le record quand on monte cette expo.
Bah, oui et non. C'est-à-dire que oui, moi, je suis toujours très content que la Suisse romande, voire l'étranger, se déplace en masse à Saint-Maurice. Après, le château reste petit. Donc, j'espère que ça va rester un chiffre... raisonnable pour nous. Mais effectivement, j'espère que cette exposition est un bel écho. Surtout avec Kilo Patrix, qui va d'une certaine manière, je ne sais pas, l'inaugurer ou la marquer. Peut-être qu'il va couper un ruban, peut-être qu'il va, je ne sais pas, en fait, finalement. Parce que vous savez qu'il était la star de Saint-Maurice à l'époque du carnaval. C'était en 2020.
2021.
Voilà, c'est un des princes qui a le plus duré dans la vie carnavalesque à gaunoise. Merci. Peut-être qu'il y en a un qui remercie le Covid.
C'est Kilo Patrix.
C'est Kilo Patrix.
C'était toi, le Covid.
On va pas s'engager sur cette pente glissante. C'est vrai. Alors, il y a le vernissage. Le château est petit. Donc, comme le château est petit, Kilo Patrix, qui est avec nous, et sa tribu, a décidé de marquer le coup aussi.
Oui, on a prévu de ressortir les costumes. C'est vrai qu'en 2020, on avait monté un carnaval qui était resté d'anthologie, comme tous les carnavals à Gonois d'ailleurs. Mais on avait fini par un magnifique banquet. C'était la première fois que ça se faisait. Donc, quatre sangliers qui tournaient sur la place du Parvis avec l'étape du banquet. Et une bonne partie des visiteurs du cortège du jour sont restés et ont profité de partager avec nous le fameux banquet qui termine chaque fois les ouvrages, les aventures d'Astérix, le Gaulois.
Donc merci Philippe d'avoir permis de ressortir et de revivre des moments extraordinaires.
Oui, on va devoir ressortir les costumes, on va devoir refaire les tresses, laisser pousser les moustaches, en quelques jours, lustrer les boucliers, etc. Mais on n'est pas tout seul, hein. Il y aura quelques Romains, il y a Jules qui sera dans la fin de la partie, avec sa Cléopâtre, bien entendu.
Cléopâtre.
Oui, on est un peu cuit chemise.
Il y aura un barde attaché à l'arbre aussi.
Il y a le barde, en principe, il devrait être là s'il n'est pas en voyage, mais ou s'il n'a pas peur de ressortir.
Je crois qu'il y a un barde à platine, en fait.
Ah, voilà.
Ah, ça aussi, ça c'est la surprise du soir. Mais...
Donc on voit hein, l'esprit de carnaval qui ressort. C'est bien de faire une expo au château avec Astérix, mais bon, pas qu'il fasse trop d'ombre quand même à Cléopâtre.
Non, c'est une opportunité hein, de plonger, de s'engouffrer dans la brèche qui nous est tendue, de faire revivre un petit peu ce qui s'est passé en 2020 à une échelle un petit peu plus réduite, mais on espère quand même beaucoup de visiteurs pour l'occasion.
Concrètement, ça se passera comment ?
Alors, concrètement, il y aura quelques effets de surprise quand même. On ne va pas tout dévoiler, on ne va pas tout dire aujourd'hui, quoi, mais on va se balader un petit peu par Saint-Maurice. Pas trop longtemps quand même, et puis vous aurez l'occasion de nous croiser, il ne faudra pas être étonné aux auditeurs d'Agouane Radio de côtoyer quelques Gaulois et Romains dans les rues de Saint-Maurice.
Voilà, parce que dans les différentes, on dit, c'est journée vernissage partout, il y a le château, mais il y a aussi les autres.
Tout à fait. L'abbaye.
Les autres expositions et lieux qui vernissent ce jour-là, donc Cléopâtre sera en promenade.
Oui, il y aura un petit final. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou un petit
peu
plus tard. Au Glarier.
Au Glarier, ne font pas. C'est,
je ne sais pas si vous savez, donc le fameux village des Irréductibles Gaulois se situe dans un coin très reculé. Nous, en 2020, on a eu les Irréductibles Agonois, donc on a repositionné ce fameux village. Ça se prêtait bien parce qu'on avait tous ces petits villages autour de nous, comme Lavey, Vionnat, Colombet, enfin Montet, etc., qui font régulièrement le buzz. On les a renommés un petit peu. Ils étaient autour de nous. C'était les fameux petits camps romains qui assiégeaient le fameux village Agonois, des Irréductibles Agonois. Et là, on va se retrouver en fin de soirée, enfin en début de soirée, plutôt pour un long moment de festif, dans un endroit un peu reculé de Saint-Maurice, donc les Glariers justement, où il y a un endroit qui se prête tout à fait à organiser un banquet. Donc deux sangliers tourneront dans le secteur là-bas et vous aurez l'occasion de venir déguster ces sangliers pour la modique somme de 15 francs la portion, qui ne permettra qu'à couvrir les frais et ne pas faire du bénéfice. C'est pas le but, mais c'est juste d'organiser, de faire la fête, de continuer ou de recommencer. Etc, etc, etc.
À la place de la petite Californix, du coup, on va dire comme ça.
On peut.
Il faut réserver, on peut venir comme ça.
Je pense qu'il faut venir comme ça. Quand il n'y a plus, il n'y a plus.
Quand il n'y a plus, il n'y a plus. OK.
Mais il y aura autre chose.
Philippe, comme porteur de ces expositions au château, dans cette ville si sexy, j'imagine que ça fait un petit plaisir quand même particulier de voir que la population ou une partie de la population s'emballe tellement pour ces projets qu'elle décide d'amener une animation en plus.
Ouais, mais c'est génial. Non, puis je trouve super parce que c'est le vernissage commun, ça fait à peu près maintenant 7 ans qu'on le fait, qu'on le pratique entre les différents lieux d'exposition. Et puis là, d'arriver avec un banquet final, comme toute belle aventure d'Astérix, on conclut par un banquet avec la potion magique. Je trouve ça sublime. La seule chose qui me fait peur, c'est que le ciel nous tombe sur la tête.
Ah.
J'espère qu'il fera beau. Voilà.
On va commander tout ça.
Donc, si les druides agonois peuvent... Patrick, je t'en connais quelques-uns.
On va surtout baïonner le barde. Voilà.
Quoi qu'il en soit, Saint-Maurice va rayonner comme village qui résiste toujours et encore à l'envahisseur, loin au-delà des frontières du village. Est-ce qu'on a un petit peu des informations de type pratique pour les horaires et tout ça ?
Alors, pour l'exposition, elle va être ouverte pendant toutes les vacances de Pâques, tous les jours de 11h à 17h30, sauf le dimanche de 11h à 17h. Le vernissage est le 5 avril à 17h au château, en collaboration avec les autres lieux d'exposition à Gonois. Et puis, côté festif, avec effectivement un druide aux platines, eh bien, ce sera dès 18h30 du côté de...
Des glariers. Du glarier, on doit dire le glarier, je crois.
Voilà, et il y aura deux vraiment sangliers entiers qui seront rôtis. Et puis de la potion magique, je crois.
Et la potion magique, du vin, de la cervoise.
De l'eau de source.
Et puis surtout de la fête, quoi.
Et de la fête et de la
musique. Une tente. Une tente, s'il pleut.
Une tente aussi, oui.
Oui, c'est-à-dire que si tout à coup, il y avait des nuages et puis que nos auditrices cette heure se disaient « Oh mon Dieu, il pleut, j'hésite à sortir ». Non, venez.
Non,
parce
c'est abrité.
Les sangliers tendront déjà depuis belle lurette. Et puis la tente, comme tu l'as dit, elle sera présente pour nous abriter, le cas échéant. Mais il va faire beau.
Et puis il y aura du tofu de sanglier pour les végétariens.
Alors ça, je me réjouis de voir.
Ah voilà, une nouvelle chose. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. C'est dans un peu plus d'une semaine.
Le 5 avril, samedi.
On y est tout bientôt. L'occasion de découvrir les différents lieux d'exposition à Gonoise. L'occasion aussi de faire la fête à la fin de ces différents vernissages. De chanter, de danser, de boire un verre. Ça devrait être sympathique. Merci beaucoup, Philippe Duvanel. Merci, Patrick Barman. Et à
merci
bientôt.
Emmanuel, merci
à vous.
Nous sommes toujours sur Agone Radio. Et après avoir parlé de châteaux, de gauloiseries et de sangliers...
Ça donne faim.
N'est-ce pas? Nous avons faim de littérature. Et oui. Yasmina nous a rejoint pour notre fameuse rubrique Miroir de page. Et ce soir, vous nous présentez trois livres et on me souffle à l'oreille qu'il sera d'abord question de voyage. Bonsoir Yasmina.
Bonsoir Emmanuel. Alors Emmanuel, lors de votre dernière visite à la librairie, je vous ai parlé d'un livre dont l'intrigue se déroule en grande partie à Saint-Maurice et vous m'aviez demandé si j'allais le chroniquer. Eh bien, le voilà,
yes.
Roulement de tambour pour Le secret de Tircé d'Aline de Sarzan aux éditions La Tribu.
Mais merci.
Aline de Sarzan a grandi à Lausanne avant de s'exiler au Canada pour poursuivre ses études en littérature classique. Elle est passionnée par l'antiquité grecque et romaine et elle publie ici son premier roman dans une maison d'édition, elle aussi toute jeune et déjà bien identifiable. Alors pour l'instant, grâce à son graphisme et, je l'espère, sur le long terme, grâce à la qualité de ses textes, affaire à suivre.
Alors, Lausanne, le Canada, mais on est déjà bien loin de Saint-Maurice. Là, quel suspense, Yasmina.
Nous nous trouvons à Mytilène, Grèce, 620 avant Jésus-Christ. Tircé, 16 ans, est en âge de se marier, de quitter le monde de l'enfance, mais elle se refuse à un tel sacrifice qui équivaut à ses yeux à devenir une femme fantôme, une femme donnée. Sa route va croiser celle de Sappho, qui obtient l'autorisation de l'emmener à Mytilène, lieu où elle prépare les jeunes filles au mariage par le chant, la danse, le culte des muses et l'initiation aux rudiments de la beauté. Cela n'arrange pas vraiment Tircé, mais Sappho lui glisse à l'oreille « Je peux t'aider à gagner ta liberté ». Montréal de nos jours. Paola, jeune doctorante, est convoquée par son directeur de thèse qui est obsédé par une poétesse de la Grèce archaïque nommée Tircé, dont un seul vers nous est parvenu « Moi, Tircé, j'aime Sappho ». Un lot de correspondances écrit par un certain Théodore Vaucher en 1781 depuis l'abbaye de Saint-Maurice est susceptible de contenir des informations sur les écrits de Tircé est mis en vente. Il faut agir vite et dans le plus grand secret. Abbaye de Saint-Maurice d'Agone, an de grâce 1374.
On y vient.
Je me demandais quand.
Sœur Marguerite, béguine installée à Agone, est condamnée par l'Inquisition. Avant de mourir, elle confie à Thomas, chanoine à l'abbaye, un parchemin où, dans un poème, deux femmes professent leur amour. Il sait qu'il doit, s'il ne veut pas finir comme Sœur Marguerite, s'en débarrasser, mais il en est incapable. Saint-Maurice, de nos jours. Paola débarque à Saint-Maurice. Elle est saisie, je cite, « par une impression de petitesse et d'oppression malgré la beauté du lieu ». Sa quête s'annonce ardue, d'autant plus qu'elle n'est pas la seule à rechercher cet écrit et que parmi ceux-ci figure Arnaud, son amant.
Nous avons donc affaire à une vraie connaisseuse d'Agone, si elle a... Elle a remarqué la petitesse et l'oppression malgré la beauté pas, du lieu.
Je ne sais pas d'où. Non, ça reste sexy, dit Philippe.
On en sait plus sur cette écrivaine. Elle a vécu à Saint-Maurice, elle a étudié à Saint-Maurice.
Non, alors pas à ma connaissance, mais on m'a soufflé à l'oreille qu'elle a demandé et obtenu de la documentation et même des vidéos. Et cela se sent car l'atmosphère y est et les sites sont très bien présentés. Et je m'avance, attention. Elle sera peut-être présente en Suisse au mois d'avril. Qui sait, peut-être qu'elle fera un détour par Saint-Maurice.
Ça serait sympa. Donc on s'amuse à travers le temps dans ce livre.
Oui, les différentes époques et leurs protagonistes s'entrecroisent au fil du roman et nous allons découvrir pour chacun d'entre eux l'importance et les répercussions de ce parchemin sur leur vie. Alors, à première vue, l'intrigue nous dirige sur un thriller historique, voire ésotérique. Bon, tout le monde a en tête le roman Da Vinci Code. Alors, il est vrai que l'autrice reprend les codes de ce dernier, mais pour mieux les déjouer. Car non, ce manuscrit perdu ne va pas changer le cours de l'histoire. Et non, Paola ne risque pas de se faire haussir à chaque coin de rue agonoise par une organisation secrète lancée à ses trousses. Même si quelques coups bas ne sont pas à exclure, car une telle découverte assure notoriété et prestige. Le propos du livre se focalise sur la transmission textuelle. Aline de Sarzan glisse ces mots dans la bouche de Sappho. « Les muses m'ont donné le seul pouvoir véritable, celui de ne pas être oublié. » En effet, les écrits survivent à la mort de leur auteur. Mais combien d'entre eux ont disparu ? Engloutis dans les catastrophes. On pense aux deux incendies qui ont ravagé la bibliothèque d'Alexandrie ou alors détruits par l'obscurantisme de l'homme. Et lorsqu'ils nous parviennent du fond des âges, sommes-nous à même de les interpréter correctement ?
On va rester sur cette jolie question, si vous êtes d'accord Yasmina, et filer vers un nouveau livre. Ça s'appelle « Point de fuite » de Thomas Gaillet aux éditions HarperCollins.
Changement de décor, enfilez vos gants et votre doudoune car nous partons pour l'Arctique. Alix Rodin a quitté la France voilà 13 ans pour s'installer en Finlande. Elle travaille comme guide, accompagnant des touristes dans leur trekking vers le Grand Nord. Elle n'a qu'un seul but dans sa vie, rejoindre le pôle géographique, exploit encore jamais réalisé. Au pôle Nord, mon cœur sera si calme qu'il pourra s'arrêter. Alors une telle expédition requiert des fonds importants, d'où l'engagement de sponsors. Une entreprise qui paraît de prime abord assez facile car elle est considérée par la presse comme une aventurière qui cherche constamment à repousser les limites. Et elle nécessite également un support logistique important qu'elle va trouver auprès de Paul Unlimited, les seuls à proposer ce genre d'expédition. Alors sa première tentative en 2003 est un fiasco, elle est sauvée in extremis. Et malgré l'amputation de ses orteils, Alix planifie déjà sa nouvelle mission. Mais le doute plane. Est-elle vraiment celle qu'elle prétend être, une athlète entraînée pour ses expéditions de l'extrême ?
Ça respire tout de même assez l'expérientiel tout ça, non ?
Oui, parce que pour écrire...
Les orteils qui...
Ça me donne froid rien que d'y penser à tout ça, je regrette pas avoir de vaste.
Tout ça.
Alors pour écrire ce roman, Thomas Gaillet s'est effectivement inspiré librement, de la vie de Dominique Arduin, qui comme Alix a rejoint le grand silence des paysages auxquels elle a toujours voulu appartenir. Alors peu à peu se dessine au fil des pages le portrait d'une femme complexe, coupe à la garçonne, allure juvénile, aux manières franches et directes. Elle sait se vendre en mettant à son actif plusieurs exploits prestigieux. Sa vie est jonchée de drames familiaux, elle a survécu à deux cancers, mais, elle s'est toujours relevée. On l'admire, Alix est une battante. Mais comme nous, Vénia, la journaliste chargée de la suivre, perçoit dans son récit des incohérences et remonte le cours de sa vie. Alors le portrait qui se dessine est peu élogieux. Cependant, on ne peut s'empêcher d'être remué par le personnage. Égocentrique, manipulatrice, inconsciente ? Oui. Mais il y a dans son acharnement, et ce malgré tous ses traits de caractère, quelque chose d'inexplicable qui nous dépasse. Alors, il faut aussi mentionner le second personnage, donc l'Arctique, qui m'a vraiment saisie. Univers blanc, impression d'ouverture sur l'infini, univers de paix, de fracas, effrayant mais fascinant. Durant cette lecture, j'ai vécu une expérience assez amusante. Chaque fois que mes yeux se détachaient du texte, mon cerveau m'offrait en bande-son « Le paradis blanc » de Michel Berger. Et lorsque le titre du dernier chapitre est apparu, je n'ai pu m'empêcher de sourire.
Et je souris avec vous, Yasmina, tant Michel Berger berce encore et toujours mes playlists. Et les jeunes lectrices et lecteurs vont sourire à leur tour, puisque, comme d'habitude, oui. Vous ne les avez pas oubliés. Et il y a aussi un livre pour eux.
Oui, nous allons terminer avec un documentaire pour la jeunesse, « L'anthologie insolite de la nature étrange et mystérieuse » de Ben Ohar aux éditions Ouzou. Alors, dans ce très bel ouvrage illustré avec des photos et des dessins, se niche une quantité d'infos sur la faune, la flore et les phénomènes terrestres. Alors, par exemple, sous la rubrique « Nez », on retrouve un animal bien connu de tous les lecteurs de Tintin, le nasik. Ce primate qui, dans l'opus « Vol 714 » pour Sydney, amuse beaucoup Alan sous le regard courroucé de Rastapopoulos. À savoir que plus son nez est développé, plus son pouvoir de séduction augmente. Donc pour le nasik, bien sûr, hein, pas pour Rastapopoulos. Ou alors dans le chapitre « Les animaux qui se dilatent ». Allez, au hasard, le crapaud américain, qui lorsqu'il se sent menacé, soulève son corps aussi haut qu'il peut et il aspire de l'air. Il semble alors bien plus gros qu'il ne l'est en réalité et l'ennemi est moins disposé à lui chercher des noises. Mais nous n'allons pas nous quitter sur cette image. Vite, un petit dernier tout mignon, la chenille à pompons.
Pompons.
À peine frôlée, elle dégaine une paire de pompons de deux tubes situés à l'arrière de son corps et les fait tournoyer à grande vitesse. L'effet est si effrayant que les prédateurs se sauvent sans demander leur reste.
On peut les adopter, ces petites chenilles à pompons ?
Alors moi, la chenille à pompons, oui, le crapaud américain, non. Bref, une encyclopédie rigolote et instructive qui nous montre, une fois de plus, à quel point notre univers est fantastique et qui, à mon humble avis, ne plaira pas seulement aux enfants.
Merci beaucoup pour ces jolies découvertes, Yasmina. On rappelle les titres des trois ouvrages que vous venez de nous présenter. Le premier, à Saint-Maurice, c'était « Le secret de Tircé » d'Aline de Sarzance aux éditions La Tribu. « Point de fuite ». Dans le paradis blanc de Michel Berger de Thomas Gaillet aux éditions HarperCollins. Et enfin, le petit dernier avec des chenilles à pompons et des crapauds américains, l'anthologie insolite de la nature étrange et mystérieuse de Ben Ohar aux éditions Ouzou.
Même le nom de l'auteur, il est drôle, Ben Ohar.
Ben Ohar, ouais. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Yasmina et on se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes.
Avec grand plaisir, à tout bientôt.
Nous sommes toujours sur Agone Radio et nous passons de culture en culture, puisque c'était pas mal comme transition. Ouais. Puisque après la critique littéraire, nous allons parler du potager agonois. Alors le potager agonois, si Fabien, tu te souviens oui. Comme moi, même si tu es un peu plus jeune que moi, à l'époque, le potager agonois, c'était l'endroit où il y avait le local scout. Au fond de ville, un peu avant les glariers.
Oh, mais je ne suis pas si jeune que ça, quand même. Je me souviens bien de ce local scout.
Voilà, qui grinçait.
J'ai usé des chemises.
Tout en bois.
Ouais, ouais.
Voilà, on a fait quelques fêtes là-bas. Et puis ce local a disparu un jour. Le terrain a été rendu à la nature. Et la nature, et la commune surtout, a mis à disposition ce terrain du potager agonois. Et pour nous en parler ce soir, nous accueillons la présidente de cette association, Virginie Dubuic-Schwend. Salut Virginie.
Salut Emmanuel.
Voilà, donc le potager, il n'existe pas depuis si longtemps en fait.
Depuis 2021.
Mmh. Voilà. Qu'est-ce qui l'a fait naître, pousser, grandir?
Pousser, oui, voilà. Alors c'est une initiative qui a été lancée par quatre citoyennes de Saint-Maurice. Voilà, c'était un peu effectivement un sujet un peu à la mode, ces jardins urbains, communautaires, et on s'est dit pourquoi pas à Saint-Maurice. Donc on est parti à la recherche d'un terrain et puis voilà, la proposition de la commune de nous mettre à disposition ce magnifique terrain de la Vigerie pour voilà, pour commencer nos travaux et puis créer un jardin communautaire, le premier de Saint-Maurice.
Un jardin communautaire qui est en train de reprendre, de se parer gentiment de nouvelles couleurs et d'arrachage de mauvaises herbes, si mes sources sont bonnes en ce moment. Et puis, ce jardin, il a tout de suite fait des adeptes.
Ah oui, il y avait une très forte demande. Bon, il y avait aussi plusieurs événements à Saint-Maurice, la fermeture des jardins proches de la gare, des CFF. Donc beaucoup de gens se sont retrouvés sans jardin. Et puis oui, alors vraiment, une grande demande est arrivée et tout de suite, on a eu plus d'une dizaine de membres et actuellement même une vingtaine.
Mais tout le monde peut cultiver son petit bout de parcelle dans ce potager. Ça se passe comment, l'organisation ?
Alors, l'organisation, c'est à choix. Donc, c'est vrai qu'on a assez quand même vite remarqué que certains membres souhaitaient vraiment cultiver leurs propres légumes. Donc, on a ouvert cette possibilité sur des petites parcelles, voire même des demi-parcelles, où les gens peuvent obtenir et avoir ce petit coin à eux. Mais ils ont quand même l'obligation de participer aux travaux communs du jardin. Voilà.
Donc on est loin du jardin, comme c'était ces jardins dont tu parlais à la gare. C'est pas chacun son petit lopin, sa petite parcelle qui cultive ces petites choses, enfin un petit peu, mais l'idée de communautaire, c'est que tout le monde participe pour tout.
Oui, tout à fait. Alors vraiment, quand je reçois les membres, donc avant leur inscription, je vais vraiment sur place et je leur explique vraiment le concept de rencontre en pleine saison, quand il y a beaucoup de travail. Donc il y a des samedis matins qui sont fixés et les gens, ils ont quand même cette obligation, dans la mesure de leur possibilité, bien évidemment, de participer à ces travaux communs.
Du coup, ça devient un lieu de rencontre, le potager.
Oui, et même vraiment plus que ça, un véritable lieu de partage. Et on se rencontre, on échange sur tout sujet. C'est vraiment, il y a vraiment un côté vraiment social, oui.
Expérience faite, c'est quand même pas tout simple le jardin, surtout pour les débutants.
Il y a un traumatisme avec ça, Emmanuel.
Pas loin, mais je travaille pour le réparer. Donc, ça, est-ce qu'on peut, quand on est au potager, justement, il y a des pros du jardin qui sont là
pour apprendre.
Des intervenants externes,
des spécialistes.
Des experts.
Voilà, oui, alors vraiment, il y a quelques personnes vraiment qui sortent vraiment du lot, hein, heureusement, et qui connaissent vraiment bien le jardin. Et grâce à leurs conseils vraiment avérés, on arrive quand même à des belles récoltes. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise saison comme l'année passée. Hein, la saison dernière, ce n'était pas terrible. Hein, beaucoup de prédateurs. On s'est battu contre les limaces, mais on a eu des magnifiques saisons. Je pense à 2023 où vraiment, on ne savait presque plus quoi faire de tous ces légumes. Hein. Alors voilà, le partage, les voisins, ils en ont tous eu au fond de ville à Saint-Maurice.
Ouais, c'est ça, il y a une clé de répartition sur les cultures. Chacun prend un peu ce qu'il a envie. Comment ça marche?
Je dirais oui et non. Alors pour certaines grandes cultures, par exemple les pommes de terre, par exemple, voilà, on a tâché vraiment que chacun ait son petit sac de pommes de terre. Ouais. Après, voilà, c'est suivant. Les légumes sont là, ils sont prêts à être récoltés. Ben voilà, ils sont à disposition et les gens prennent.
Moi, j'avais reçu des tomates une fois. C'est
vrai. Ah, explique-nous, t'avais fait du tartare de tomates d'ailleurs.
Oui, c'était incroyable. Non, on a été invités à venir rendre visite avec les autorités politiques. Et puis, on a reçu de magnifiques fruits, légumes. Alors, j'ai reçu des tomates de toutes sortes, des belles grandes tomates jaunes et puis des tomates rouges, cœur de bœuf, je crois que ça s'appelle comme ça. Puis une fois arrivé à la maison, alors j'ai pas fait un tartare, j'ai fait un carpaccio.
Ah pardon, excuse-moi.
Carpaccio de tomates jaunes et rouges sur une assiette bleue avec un petit peu de basilic, de l'huile d'olive. C'est absolument génial. Donc c'est vrai, c'est l'occasion aussi de dire qu'on peut redécouvrir aussi des produits avec un vrai goût.
Oui, alors vraiment, des belles tomates, une vraie bonne tomate du jardin n'a vraiment rien de comparable. D'ailleurs, j'en achète plus jamais au magasin. Mais voilà, alors après, redécouvrir aussi des anciens légumes, des légumes oubliés.
On parlait de ça, hein.
Oui, voilà, ça a été aussi notre challenge la saison passée. Donc, On a eu des topinambours, là, qu'on a sortis encore récemment de terre. On a cultivé le panais, on a cultivé des variétés différentes de carottes. Voilà, on fait aussi des essais, des tests comme ça.
Puis il y en avait un. C'est quoi le nom? Tu te souviens?
La chayotte. Hein, c'est quoi une chayotte?
Alors, la chayotte, on peut aussi l'appeler chouchou. C'est un légume de l'île Maurice et de la Réunion. On le trouve là-bas. Normalement, on m'a dit, quand on m'a donné moi je connaissais le légume, mais quand on m'a donné le planton, voilà, on m'a dit, oh, tu vas voir, ça pousse, faudra faire attention, ça, c'est envahissant, etc. Donc, bon, alors chez nous, on va réessayer cette année, ouais, mais chez moi, ça n'a pas poussé.
Peut-être pas les mêmes conditions climatiques.
Bon, Maurice, c'est quand même assez loin. Hein.
Voilà, mais on va être persévérant.
Alors, sans parler du soleil de l'île Maurice, la terre de Saint-Maurice, elle se prête quand même bien à ces cultures.
Alors là, dans tous les cas, oui, je pense que la terre est bonne. Bon, on essaye aussi de faire des apports puisqu'on fait aussi notre propre compost. Donc, voilà. Et on essaye de cultiver bio, donc on ne met pas de pesticides et autres dans la terre. Donc oui, la terre du fond de ville est très bonne, du fait aussi que, sauf erreur, il y avait en son temps une ancienne porcherie. Donc est-ce que... Voilà,
la terre... Ouais, alors la porcherie, ensuite les scouts. Kiff, kiff. Ouais, ça fait tout ce qu'il faut, quoi.
comment on fait pour obtenir tous ces plantons, toutes ces graines? Est-ce qu'il y a une production locale du potager ou bien est-ce qu'on va se servir à l'extérieur vu qu'il y a cette obligation du bio?
D'accord, oui. Alors, c'est vrai que si on se sert à l'extérieur, bon, voilà, il n'y a aucun problème, mais on doit faire en sorte d'acheter des plantons ou des graines bio. Et ensuite, nous, on essaye aussi au potager de récupérer nos propres graines. Et puis de pouvoir les fournir aussi à la Grainothèque de Saint-Maurice.
Donc la Grainothèque de Saint-Maurice qui se trouve à la médiathèque et qui est un endroit où on peut aller chercher ces graines pour les faire germer, en ramener d'autres. C'est une sorte de...
C'est pas un projet du parc naturel régional.
C'est un projet du parc.
C'est exactement ça.
Ah ouais, oui. On a parlé de beaucoup de choses, mais ça c'est resté.
D'ailleurs, le potager est en lien avec le parc naturel.
Tout à fait, oui.
Autour notamment de cette Grainothèque.
Oui. Principalement, oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal de contacts avec eux quand ils ont souhaité mettre en route cette Grainothèque et on a été le jardin potager, le principal fournisseur de graines. Et maintenant, on continue le projet donc en restant toujours en contact et puis voilà, c'est nous qui amenons la majorité des graines.
Tu disais avant, il y a des personnes qui cultivent, qui ont un petit bout de parcelle. Il y a une vingtaine de membres, donc tout le monde n'a pas son petit bout de parcelle. Mais tout le monde est le bienvenu, finalement.
Tout le monde est le bienvenu. La semaine dernière, j'ai accueilli en visite un couple d'une jeune femme thaïlandaise qui arrivera prochainement en Suisse, définitivement aussi. Et tout simplement, elle voulait être membre pour faire des connaissances, pour lier des amitiés au sein du potager, puisqu'ils habitent le quartier. Donc, elle ne souhaitait absolument pas avoir de terre, mais elle veut être là, participer aux travaux communs, et voilà, tout simplement pour une raison sociale.
Cultiver la terre pour cultiver l'amitié. N'est-ce pas?
Exactement. C'est d'ailleurs, il y a même quelques petits apéros des fois pour cultiver l'amitié au potager.
Tout à fait.
La suite des événements dans ce potager, est-ce qu'il y a des envies, des projets?
Voilà, oui, on a même pas mal d'artistes au potager, des peintres. Et sauf erreur, peut-être une exposition de peinture à voir.
En lien avec le potager.
En cours d'élaboration.
Exactement. Je crois qu'on peut le dire parce qu'elle est dans le programme de Contre-Contre. C'est Catherine Frossard qui a fait plein de petites fleurs au potager, justement, et qui va les exposer au mois d'octobre à la galerie Contre-Contre. Mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler sur nos ondes.
Mais oui.
Parce que c'était un travail de fou.
Un travail incroyable qu'elle a fait. Et,
sur un an tous les jours.
Oui, vraiment.
Quel que soit le temps.
Quel que soit le temps, Catherine, toujours sur son...
Vélo.
Oui, non, pas
son
que le
vélo. Et sur... au jardin après.
Au jardin, sur son petit tabouret pour peindre des centaines d'aquarelles. Ouais. Impressionnant.
Virginie, une petite question encore. Comment on fait pour contacter le potager, pour faire en sorte peut-être de passer Déjà, on peut y aller simplement?
Oui, vous pouvez visiter tout à fait librement le jardin. Il est ouvert, mis à part la bâtisse où on entrepose tous nos...
Les outils,
voilà, ça s'est fermé. Mais voilà. Ensuite, il y a un panneau d'accueil où vous trouvez toutes les instructions, les numéros de téléphone, les personnes à contacter. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre ou à rejoindre le potager, voilà.
Donc, il y a un compte Instagram, je crois.
On a un compte Instagram, tout à fait.
Le potager à Gonois.
Oui.
Il doit s'appeler comme ça. Ou quelques publications de fleurs, de légumes arrivent de temps à autre.
Tout à fait.
Donc, on souhaite encore beaucoup de vie, une belle saison à ce potager. Et puis, on se reverra peut-être une fois pour parler de différents événements. Merci beaucoup, Virginie.
Merci, Emmanuel.
D'avoir passé par Agone Radio pour parler de ce potager. C'est le début du printemps, ça tombe bien, il y a du soleil, on a envie de gratter la terre. Et ça fait tellement du bien, la meilleure des méditations.
Et sur Instagram, c'est potager-en-bas agonois. Facile.
Merci.
Et c'est sur Chou Wasabi de Julien Doré que nous allons prendre congé. Si c'est pas beau ça.
C'est chou.
On a un magnifique boss qui arrive à nous trouver des chansons qui collent particulièrement bien à l'actualité de l'émission. Donc après le potager, Chou Wasabi. Et pour nous, un grand merci de nous avoir suivis. Merci à nos intervenants du soir. Philippe Duvanel, Patrick Barman, Yasmina Cordonnier et Virginie Dubuc-Schwend. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudredi dans lequel nous reparlerons du vernissage commun du 5 avril, de l'énigme de Pâques de Saint-Maurice Tourisme et de Mécalitopia, une escape room pleine de mystères nichés au cœur de la falaise de Saint-Maurice. D'ici là, nous restons présents sur Internet et sur le DAB+, ainsi que sur les box Net+, Swisscom Blue et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bonne suite de Jeudredi soir et à bientôt sur Agone Radio.